Love me tender, love me sweet. Never let me go.
C'est bon? Ça te plaît?
Ils ont vu encore ces fruits.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le goût du monde. Deux mots aujourd'hui, racine et manger. Manger ses racines, l'expression peut paraître un peu maladroite, un peu étrange, et pourtant, s'imprégner petit enfant des saveurs et des parfums de là d'où on vient, c'est très important. Des cuissons, des épices, des mots, être ensemble et partager. N'est-ce pas là le début de l'amour? Et quand on est un bébé, c'est par la bouche que l'on découvre le monde. La main à la bouche exploratrice, c'est dire combien ses premiers goûts nous façonnent. Quelle place alors pour nos racines, nos origines dans l'ouverture de nos enfants à ce qu'ils mangent, à ce que nous mangeons et partageons. Misk Alaoutou a décidé d'en faire une partie de plaisir et d'ouvrir le monde à sa fille et de nous en donner la recette. Bonjour Misk.
Bonjour.
Vous êtes cuisinière, originaire des Comores, et food thérapiste pour artistes. Alors on va traduire un petit peu ce que ça veut dire. En gros, vous préparez à manger aux artistes et vous les cajolez, vous les accompagnez.
Je les ramène dans leurs racines, je leur fais du bien, j'imagine ce qu'ils aimeraient et je m'inspire de leur musique pour créer des plats et les faire voyager à travers ces buffets qui sont sans frontières et sains et locales.
Et voyageuse, et cependant, bien ici et bien là. Oui. Ces racines-là, racontez-nous, Misk, comment est-ce que vous les avez goûtées, vous?
Avec ma maman.
Où est-ce qu'on est?
Alors, on est à Nogent-le-Rotrou, mais on est à Anjouan, aux Comores. Donc, maman nous faisait beaucoup manger les plats des Comores, les épices. Et quand on sortait, on était à Nogent-le-Rotrou et on mangeait plutôt très français, ce qui nous a ouvert au monde, ouvert à notre culture. Ça a été les premiers goûts, la première ouverture à notre pays en étant ici. Et c'est ce qui m'a donné aussi envie de faire la même chose avec ma fille.
C'est important pour votre maman, quand elle s'est installée en France, justement, de partager ses racines. Est-ce que c'était non seulement important, peut-être un peu compliqué? Comment ça s'est passé pour elle?
C'était un petit peu compliqué parce que à Nogent-le-Rotrou.
On la salue déjà parce que je pense qu'elle nous écoute.
Rosuna.
Voilà, coucou Rosuna.
Coucou maman. Alors oui, c'était très dur parce qu'ils étaient à Nogent-le-Rotrou. Et
alors là, on est à l'ouest de Paris, Nogent-le-Rotrou, sud-ouest de Paris, même
sud-ouest, oui, dans le Perche. Et c'est vrai que c'était pas évident. À l'époque, il y avait que les frères Tang, cette fameuse enseigne qui était la seule en France, clairement, en 83, je parle. Hein. Et c'est vrai qu'ils faisaient les trajets, mais pour eux, c'était important que la communauté comorienne se rassemble, garde ses plats traditionnels, partage avec les enfants. Alors nous, on n'a pas eu la langue, mais on a eu la cuisine, qui était pour maman très importante. Elle mélangeait, elle s'est inspirée aussi de ce qu'elle a vu ici, mais toujours en gardant cette base. Les crêpes n'étaient pas les crêpes avec le sucre comme ici, c'était avec les épices des Comores. Donc les parfums des Comores, la cannelle, la vanille, la cardamome, ça paraît rien, mais ça m'a permis moi aussi d'avoir des odeurs sur mes habits le matin en partant à l'école, et ce qui m'a permis de faire rentrer les Français, entre guillemets, à la maison, parce que je sentais les parfums, l'odeur. Donc oui, c'était très important pour eux pour elle surtout, de partager ça avec nous.
En 83, est-ce que c'était assumé? Est-ce qu'elle vous disait, c'est important,
Quoi,
ce gratin-là, j'ai mis cette épice-là parce que c'est...
Non. Ils étaient assez complexés parce que c'était les seuls, que ça a été compliqué aussi d'arriver dans une ville où il y avait très peu d'étrangers. Donc... c'est aussi important.
À la campagne.
À la campagne. On n'avait pas le droit d'aller à l'école au départ parce qu'on était de couleur. Donc c'est vrai que pour eux, ils ont fait l'impasse sur beaucoup de choses. Notamment sur... ils sont musulmans, ils nous ont laissé manger du porc pour pouvoir s'intégrer. Donc oui, c'était un peu à double tranchant. C'est-à-dire qu'ils faisaient... À la maison, ils nous donnaient des petites pistes pour qu'on puisse s'ouvrir. Et en même temps, ils nous demandaient de s'intégrer indirectement en mangeant du porc. Donc c'est une belle histoire, je les remercierai jamais assez, même si ils ont pas... aujourd'hui, on ne parle pas comorien. parce qu'ils ont voulu nous intégrer, ils ont voulu, voilà.
Et la priorité, c'était l'intégration, mais sans tout effacer derrière du passé.
Ouais. Mm. J'ai eu un gros déracinement. C'est pour ça que la cuisine, pour moi, était très importante, parce que c'était le seul moyen pour moi de partager ma culture avec les copines aussi, de les faire venir à la maison pour manger les crêpes de maman, pour boire le thé, le chai, pour manger le poulet au coco. voilà, c'était ma façon à moi de montrer d'où je venais. Mm. Parce que je ne pouvais pas parler la langue et les chansons, je ne les connaissais pas. Mm. Donc pour moi, c'était un peu... ouais, c'est une belle histoire. Je les remercie encore.
Et donc vous, vous êtes devenue maman à votre tour.
Eh oui.
Et alors, qu'est-ce que ça a fait? Bon, j'imagine c'était chouette. Mais dans votre rapport à l'alimentation, et du coup, dans cet héritage-là, qu'est-ce que vous en avez...
Dès que j'ai su que j'étais enceinte, c'est marrant qu'on aborde ce sujet, parce que c'est vraiment ça, j'avais besoin qu'elle ait toutes ses saveurs et qu'elle soit déjà complètement impliquée quand elle était dans mon ventre. Donc j'ai beaucoup mangé des plats comoriens, j'ai beaucoup mangé des épices de maman, et c'est vrai que j'ai partagé ça avec elle déjà quand elle était dans mon ventre. Et maman est arrivée mon dernier mois de grossesse, parce qu'ils étaient déjà partis aux Comores. Donc j'ai vécu ma grossesse aussi sans ma mère. Et ça, c'était très dur. J'assume de le dire, parce que je me sentais seule. Et maman est venue le dernier mois et elle m'a fait tout le côté traditionnel. C'est-à-dire, j'ai eu les massages au lait de coco, j'ai eu les massages avec les herbes, j'ai eu les tisanes à la moringa, avec toutes les herbes des Comores. J'ai eu tous les repas, les soupes qu'on fait aux femmes enceintes pour les réchauffer le corps, pour que le bébé soit bien. Toutes les épices qu'elle avait fraîchement cueillies. Donc, c'est vrai que, oui, ça a été très important pour moi, cet héritage. Et jusqu'à ce que j'accouche, où maman m'a préparé mes plats à la maternité, mes poulets au coco, mes bœufs masala, mes bérégés, j'avais vraiment tout. C'était important, et Camilla a eu l'accueil aussi, avec les massages au lait de coco chaud, avec les herbes. Donc oui, ça a été pour moi
massage
avec...
Massage au lait de coco chaud, je veux être...
Et c'est vrai que oui, on avait même... j'ai même accouché avec la tenue traditionnelle, j'ai... Camilla est sortie avec la tenue. Donc, pour moi, c'était vraiment très important parce qu'elle est métisse. Et le métissage, on sait ce que c'est. Moi, je l'ai vécu ici sans être métissée. Mais je l'ai complètement vécu comme un métissage. Et c'était important pour moi, dès la naissance, qu'elle sache, en fait, indirectement, via l'alimentation, d'où elle vient. Mmh. L'alimentation et les tenues traditionnelles.
Mmh. Quand vous parliez des soupes que vous préparait votre mère pendant votre grossesse, c'était des herbes particulières,
c'est les fameuses soupes. Alors, c'est une soupe qui est dans tous les pays, c'est ça qui est génial. Même aux Antilles, c'est une soupe avec des légumes coupés très finement, très petits, en tout petits carrés, où on met des pâtes et c'est des pieds de veau. Et ça cuit, ça mijote pendant très longtemps. Et vraiment, ça te réconforte. C'est les soupes qui réconfortent. Donc, c'est vraiment que des légumes. Il y a pas d'ajout d'épices, même. C'est ça qui est génial. Mmh. C'est que c'est vraiment pour réchauffer le corps. Mmh. Après, j'ai eu cette chance d'avoir les bœufs masala et tout, mais vraiment incroyable. Tous les bérégés, les galettes. Voilà.
Mmh. Toute cette nourriture, en fait, elle accompagne vraiment tout le processus de gestation, puis d'accouchement, puis d'accueil de l'enfant.
C'est très important de réchauffer son corps. Ça, c'est vraiment... Je m'en suis rendu compte en discutant avec une autrice qui a écrit Maman du Monde, que c'est vrai que c'est beaucoup dans les pays africains où on réchauffe le corps beaucoup de la maman pour que le bébé soit bien. Mm. Et finalement, on transmet au bébé la totalité des épices, des saveurs. il s'amuse bien dans le ventre. Hein. Le placenta, c'est génial. Et puis quand il sort, et l'allaitement, parce que je l'ai fait jusqu'à l'allaitement. J'ai allaité, donc je lui ai mis toutes ces saveurs-là aussi dans le lait.
Bien sûr. Et ensuite, donc, commence... La diversification. Alors, c'est un beau mot, hein, les mots en sion-sion, on s'en méfie parfois. La diversification, en fait, on pourrait l'appeler comme une ouverture sur une autre alimentation. Ouais. Et vous en avez fait un livre.
Alors, j'en ai fait un livre. Alors, on m'a contactée pour faire ce livre-là. Hein. Moi, je voulais pas, je savais pas. C'est transmission orale chez nous. Hein. Donc, c'est vrai que les livres de cuisine chez maman, il n'y avait pas. Et j'ai jamais connu ça. Les balances, n'en parlons pas. Les grammages, tout ça, tout à l'instinct hein, chez nous. Donc... Je l'ai faite comme ça, moi, la diversification de ma fille. Alors, la diversification de Camilla, il y avait déjà d'une part l'ouvrir au pays, aux Comores. Mais elle était à la crèche rue de Nantes, dans le 19e, à Crimée. Et c'est vrai que...
Donc à Paris.
À Paris, oui. On était plusieurs cultures différentes. Il y avait des Chinois, il y avait des Indiens, on était plein de... Et c'est vrai que je voyais la diversification se fait à la crèche. Et c'est le midi, généralement, qu'il s'ouvre. Alors la chance dans cette crèche-là, c'est que le cuisinier était sur place, et c'est un Antillais, et qui, lui, avait cette ouverture des épices et assumait pleinement. Donc ça, c'était génial. Mais c'est vrai que je voyais les autres et je me disais, mais en fait, on n'en parle pas. Mais lui, il doit manger des brioches, lui doit manger des bébés, il doit manger des riz cantonais, et puis toi, tu dois manger du mafé. Et alors moi, chez moi, je lui fais manger des poulets au coco, mais on s'en parle pas. Et c'est vrai que je me disais, en fait, Camilla, bah, j'aimerais que tu puisses manger ce que tes copains mangent. Et pour moi, c'était une ouverture aux épices, c'était une ouverture au plat du monde, et c'était un peu casser des codes et la faire voyager dans les pays des copains.
Important aussi, parce que vous dites la tradition, elle est orale en Afrique, oui. Dans de nombreux pays du monde. Cependant, écrire un livre, c'est aussi permettre d'ouvrir et d'accéder, et de laisser un accès à tous ceux qui se posent ces questions-là.
Oui, et puis c'était surtout aussi de dire à toutes ces femmes qui se posent des questions et qui viennent d'un autre pays, qui sont en France, que... N'oubliez pas, essayez de voir ce qui se passe au pays. Moi, ça a été ma question, c'est-à-dire quand j'étais enceinte avec la toxo, on te raconte plein de choses, et puis on te fait faire plein d'examens, et puis après, la diversification, on te met beaucoup de contraintes, et quand t'allaites, on te dit, ne mange pas ci, parce que ça va donner un goût au bébé
très dans encadré.
Le lait. Et c'est trop d'encadrement qui, moi, m'ont fait ça m'a fait mal au début. Je me suis dit, comment ils font dans les autres pays? Ils ont pas tout ça. Et leurs enfants vont bien, voire même très bien, et on a une richesse. Donc je me suis dit, en fait, dans tous les pays, il y a plein de richesses, c'est-à-dire que introduire l'arachide, c'était manger du mafé pour moi. Introduire le masala, c'était manger le poulet au coco comorien pour moi. C'est vrai que ça a été cette ouverture-là où je ne me suis pas posé de questions. J'ai laissé mon intuition et qu'aujourd'hui, je suis ravie de voir que ma fille à 6 ans est très ouverte et mange de tout et va très bien et très rarement malade, voire très peu malade.
La chef Ariel Akpo-Akpo, elle est cuisinière à Calais, dans le nord de la France, aux grandes tables dans un endroit merveilleux qui s'appelle le Chanel, et elle est mère d'un petit Noah de 8 mois. A-t-elle fait la part belle, elle aussi, à ses racines africaines, béninoises, dans la diversification alimentaire de son bébé?
Forcément, je suis obligée de mettre mes racines dedans. Mon petit garçon, il a commencé à manger avec le gombo et la pâte de maïs. Et il adore ça. Forcément, c'est un peu ancré en nous. Et on a envie de transmettre ça à nos enfants, puisque ça nous a fait du bien à nous. Donc forcément, on insère ça dans la diversification alimentaire. Ouais.
Vous n'êtes pas du tout interrogée sur est-ce que je peux lui donner du bonbon, est-ce que je peux lui donner des parfums de la cuisine africaine?
Je ne me suis pas du tout posé la question, dans le sens où, étant enceinte, j'ai vraiment mangé africain. J'arrivais pas à manger sans piment, j'arrivais pas à manger quand ça n'était pas relevé. Assez de poivre, assez de gingembre, assez d'ail, c'était difficile pour moi de manger comme ça. Donc tout de suite, il a commencé à s'habituer un peu à ces goûts-là aussi. Et c'est vrai que je ne me suis pas posé la question. Au point où les purées, quand ce n'est pas salé, quand ce n'est pas légèrement relevé, il ne les mange pas. Donc la question ne s'est pas du tout posée. C'est évident, mais en même temps, ça fait plaisir parce qu'on n'est pas dans un... milieu africain, si je peux dire, donc de voir son enfant prendre aussi ses valeurs, prendre le côté africain de son parent, c'est génial.
Et la plantain bientôt?
La plantain, on l'intègre un peu plus tard. Là, je peux faire des petites frites de plantain à lui donner pour qu'il joue en fait connaître le goût avec ses mains directement. Mais un peu plus tard, lui faire vraiment manger ça dans d'autres préparations.
La chef Ariel Akpo-Akpo, donc cuisinière béninoise qui est aux grandes tables à Calais. On sent vraiment, je trouve, dans les propos d'Ariel, qu'il y a un vrai plaisir à éveiller son bébé au goût.
Mais oui, c'est une éclate. C'est pour ça, faut. Mais on s'éclate aussi, en plus. C'est ça qui est génial, c'est que finalement, moi, le mafé, j'en avais jamais cuisiné avant la diversification de ma fille. Le houmous, pareil. Les falafels, pareil. Je voulais intégrer les pois chiches, je savais pas comment. Non, mais sérieusement, c'est ça qui est génial. Amusez-vous, parce que c'est pour ça que ce livre, c'est pour bébé et toute la famille, parce que vous allez tous vous diversifier. On se diversifie toute sa vie. C'est ça qui est génial.
D'ailleurs, Cécile Benissi, la réalisatrice de l'émission, a dit « Ah ben, je vais regarder parce que peut-être que je peux avoir des idées aussi pour que mon ado mange plus de légumes. »
Mais oui.
On va tous se diversifier.
Mais c'est une diversification à vie. Et encore, il y a tellement de diversité dans tous ces pays. C'est génial. Et que même, ce qui est génial aussi, c'est d'avoir des mêmes légumes et de pouvoir faire des recettes de plein de pays. Avec les mêmes légumes. Le pot-au-feu ici, tu le déclines dans plein de pays, il y a plein de recettes pour ça. Et c'est ça qui est génial.
Le poulet coco, il a une place un peu particulière dans votre livre quand même.
Oui. Oui, parce que c'est le premier plat que j'ai fait à 7 ans, à mon papa. Et c'est vrai que le poulet au coco, il y a plein de versions. Donc il y a le avec les curries. Alors chez nous, c'est pas du tout ça. C'est le masala, c'est de la vanille. C'est de la cannelle. On part dans du sucré salé. On a toujours eu ça chez nous. Et c'est vrai que c'est le plat qui a fédéré tous mes copains. Depuis toujours. C'est le plat qui fait du bien à tout le monde. Même aux artistes. Ils découvrent le poulet au coco avec moi.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Tishinjia, tishinjia, noni hunde mavuna. Yuanavu atishinjia, tishinjia, noni hunde mavuna. Tiraraya ni hutahe mwana, ntinapanga na tulinjia. Tihadi tika ukazana, minja parohi sata maya. Leo tihu bahara mana, lakine hutitia. Leo tihu bahara mana, lakine hutitia.
Moana de Zainaba Ahmed sur RFI. Vous écoutez Le Monde, bienvenue. Vous écoutez Le Monde et vous écoutez Le Goût du Monde. Bienvenue si vous nous rejoignez. Nous sommes avec Misk Alaoutou, cuisinière, manageuse, cajoleuse d'artistes et auteur aux éditions First d'un petit bijou pour pimper, égayer la diversification alimentaire de votre enfant. J'aime bien cette idée que le goût est aussi un héritage, qu'il se transmet et se partage. Quelle émotion aussi, quand on a un pied ici, que l'on vient d'ailleurs et que l'on donne à son enfant, en fait, la nourriture qu'on a soi-même mangée enfant. Je me souviens, Ariel, qu'on écoutait tout à l'heure, elle m'a montré ensuite une vidéo de Noah en train de manger du gombo. Et en me la montrant, elle était juste avec un immense sourire et du plaisir justement d'arriver à transmettre ça.
Je vais même aller plus loin parce que Camille a 6 ans maintenant. Ma plus grande fierté, moi, ça a été de voir Camilla, il y a un mois et demi de ça, me demander si je pouvais préparer les crêpes avec elle. On pouvait préparer les crêpes avec les épices des Comores, les crêpes de mamie, pour les emmener aux copains de classe. Et donc, on les a préparées. Et là, elle m'a demandé, « Maman, est-ce que tu penses que les copains savent ce que c'est la cardamome, la vanille et la cannelle ?» Et je lui ai dit, « Écoute, je ne pense pas. En tout cas, la vanille et la peut-être, mais le reste, non. La cannelle en brut, peut-être pas. » Et donc, elle a pris les épices, ses crêpes, et elle a fait un exposé devant toute sa classe. J'étais émue de recevoir les photos de la maîtresse parce qu'elle s'est très bien débrouillée. Visiblement, elle a expliqué tout le process et comment elle les utilise, les épices. Et ça, ça a été ma plus grande fierté.
Ouais,
parce que la transmission s'est faite, assumée, et elle est très fière de ses origines et de sa double culture, et qu'elle la diffuse elle-même maintenant. C'est elle qui prend le relais.
Manger, c'est aussi toucher, sentir, regarder, manipuler, écraser. C'est tout ça, en fait. Oui. Apprendre aussi la culture de l'autre.
Oui. Moi, j'ai eu cette bonne idée de mettre ma fille en cuisine à 10 mois. Donc, sa main, ces fameuses crêpes, effectivement, c'est des ateliers qu'on fait depuis qu'elle a 10 mois. Sa main a été mon fouet.
Et Alors, racontez-nous là, sa main, votre fouet.
Eh ben oui, mais en fait, je mettais tout dans le bol mélangeur et elle mettait sa main dedans et elle mélangeait. Donc, c'était plein de textures. Et puis, plus elle mettait sa main dedans, ben, ça se mélangeait. Donc, il se passait des choses et ça faisait comme de la pâte à modeler. Mm-hmm. Donc, je me suis dit, c'est génial pour elle la faire travailler. C'est de la motricité aussi, hein. Donc, c'était assez rigolo. Et en fait, oui, elle a été beaucoup là. Alors, moi, je parle beaucoup de laisser les odeurs circuler, parce que c'est ce qui ouvre aussi l'appétit des bébés, de ne pas forcément les écarter. Moi, je l'ai vraiment impliquée dans la cuisine, et c'est vrai que son regard et son rapport n'étaient pas du tout le même. Donc, toucher, sentir, laisser goûter, s'ils veulent prendre. Moi, elle a pris la cannelle, elle mettait le doigt dedans, elle mettait dans la bouche, et ben tout va très bien. Et c'est ça qui est chouette, ne pas se dire qu'ils vont en mettre partout. C'est pas grave, hein, c'est des bébés, hein, c'est nous qui mettons trop de pression. À un moment, il faut les impliquer dans la cuisine. Hein. D'être des bébés, c'est important.
Ce qui est intéressant aussi, c'est dans votre livre, vous interviewez une pédiatre qui remet bien un peu les choses quand même, parce que c'est un peu un stress ici. On a l'habitude, en tout cas en France et dans bien des pays du Nord, on encadre tout, on peut pas manger n'importe quoi, tout est absolument millimétré. Quand est-ce qu'il faut commencer la carotte, le machin, à quel âge et tout ça. Et cette pédiatre donc permet vraiment de déculpabiliser les parents. En fait, il n'y a pas d'interdit. Et c'est ce que nous dit aussi le professeur Patrick Tounion.
Oui.
Il est pédiatre,
mais alors
chef
l'adore.
Du département alimentation à l'hôpital Trousseau à Paris.
Traditionnellement, on commence par les légumes et les fruits, puis suivent la viande, le poisson et les œufs. Faut-il commencer par le salé ou par le sucré? Traditionnellement, on commence par le salé, puis suit le sucré. J'ai bien dit traditionnellement. En pratique, franchement, les parents peuvent faire ce qu'ils souhaitent. Il n'y a absolument aucune importance. S'ils préfèrent commencer par les fruits que par les légumes, ils le peuvent. S'ils veulent commencer par le sucré plutôt que le salé, ils le peuvent aussi. Donc, faut juste retenir l'âge, entre 4 et 6 mois. Et pour le reste, les parents font comme ils le souhaitent.
Alors, vous étiez heureuse d'entendre le docteur Patrick
Tounion? Oui, beaucoup d'émotions. Professeur Tounion, j'ai fait l'émission La Maison des Maternelles avec lui, justement, pour parler de la diversification de Camilla il y a 5 ans. Et c'est vrai que sur le plateau, en fait, je lui disais que la pomme chez nous est un fruit exotique. Alors c'est vrai qu'au tout départ, on nous disait d'introduire les fruits exotiques à la fin.
Et oui, pour le contrôle des allergies.
Oui, mais je lui disais, mais ça se passe comment en fait au Comore? La pomme est un fruit exotique. Donc si je pars du principe que je ne suis pas métisse, que ma maman est 100% comorienne et qu'elle a grandi comme ça, comment ça se passe? Et ça l'a fait rire. Et il m'a dit, mais t'as totalement raison en fait. Et je lui dis, c'est pareil pour les arachides et tout. En fait, plus tu tardes, plus les allergies vont arriver forcément. Et en fait, on s'est rendu compte que il y avait plein d'incohérences et que c'était bien d'ouvrir aussi.
J'aime bien l'idée de l'exotisme de l'autre n'est pas le sien.
Mais oui, mais c'est vrai. Mais pour tout en fait. Nous, on n'a pas les examens là-bas au pays. Ils vont très bien. Hein. Mes cousins, ils sont ici. Ma maman va bien.
Et c'est d'ailleurs une réflexion qu'on vous fait souvent, de ce fossé entre les conceptions. Ce que je veux dire, c'est quand on est au pays, tout ce qu'on fait, et une fois ici, on a l'impression que c'est une autre planète, le pays.
Parfois. Ah ben, je confirme.
Mais du coup, est-ce que justement, c'est important de rappeler justement tout
ça?
Oui,
mais c'est pour ça que je suis très heureuse de diffuser ça, de décomplexer tout le monde, en fait. Parce que... c'est important de s'écouter aussi, c'est important de se dire déjà on connaît mieux notre enfant. Et les quantités, on nous restreint au niveau des quantités, mais tous les enfants n'ont pas le même appétit. Tous les enfants ne sont pas les mêmes. On nous fait culpabiliser de « non, tu lui as donné 3 manger, mais il mange à sa faim ». Et si là, il veut pas faire sa diversification tout de suite, c'est pas grave. Chacun son rythme, en fait. Et c'est vrai qu'on nous met trop, on nous impose des mois, tout est calculé, de 5 à 6 mois, c'est ci et ça. Enfin, moi, Camilla, elle a commencé à manger à 6 mois. Donc, j'avais du retard, par rapport à ici. Et elle a commencé par la mangue. Elle a voulu manger un bout de mangue. Après, j'ai appris que ça s'appelait de la DME. Mais en plus, faut mettre des mots dessus tout le temps. La DME, non mais... Enfin, moi, c'était compliqué, je leur ai dit, mais je sais même pas ce que c'est. Après, on m'a dit, Miss, t'es plutôt dans les pédagogies alternatives, Montessori, faut que tu regardes, je sais même pas ce que c'est, je savais pas. Je dis, mais en fait, je le fais à l'instinct. Donc, ne pas s'oublier. Et écouter son enfant. Et s'écouter parce que finalement, on a les réponses en plus, c'est ça qui est génial. C'est à cause des restrictions qu'on perd son instinct maternel. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'au pays, ils l'ont. Les écharpes de portage, tout ça, c'est devenu à la mode. Ça vient d'où, en fait? On l'a oublié, c'est parce qu'on a oublié, on met des poussettes, on n'est plus en rapport avec l'enfant. Enfin,
mais est-ce qu'on s'accepte comme n'étant pas au pays, justement? Est-ce qu'on
mais non, parce que
supporte
je...
le regard? Il y a un regard des
oui,
autres qui est porté.
Oui, et c'est
aussi.
Pour ça que je sais que maman, elle a fait comme ici, pour faire bien. On a mangé des petits pots comme tout le monde. Hein. Elle n'a pas fait la diversification que j'ai faite, moi, par peur. Et quand moi, j'ai commencé la diversification de Camilla...
Elle vous a mis en garde?
Oh là là, mon Dieu. Papa, c'était... Non, mais Miss, que là, tout de suite, le masala... Non, mais alors, attends, ça va la pique. Oh, mais tu mets le curcuma, ma fille. Mais oh, le cumin... Non, mais pas tout de suite. Mais je lui dis, papa, stop, en fait. Rappelle-toi d'où tu viens. En fait, ils sont déracinés. Voilà. C'est un déracinement qui finalement, aujourd'hui, ils sont contents que j'ai pris ce parti-là, en fait. De revenir aux sources. Ils sont fiers. Parce qu'eux, on n'a pas osé, à l'époque.
Ils peuvent partager aussi avec leur petite fille.
Oh là là, mais là maintenant, ils sont ravis de voir Camilla manger des bananes, trempées dans la sauce masala, réclamer le fruit à pain. Mais oui, ils sont fiers, en fait, de l'avoir autant apprécié, les sambousa. Les...
C'est un défi personnel quand même.
Un petit peu, ouais.
C'est un peu un parcours.
C'est un vrai parcours et c'est aussi pour décomplexer. J'assume pleinement ce mot parce que je peux montrer un exemple. Je l'ai fait avec des regards parce que à la crèche c'était pas marrant quand même. Hein, les parents, moi j'assumais pleinement sur les réseaux en plus donc il y en a qui me suivaient.
Et c'est vous vrai, aviez des réflexions parfois en
oui.
Disant.
Mais pas que sur ça. C'est vrai que Camilla pour moi ça faisait partie de ma vie donc c'était j'allais en concert, y a des casques qui existent, tout va bien. Elle m'a accompagnée. Elle m'a accompagnée aux Comores, elle avait 3 ans. Je l'ai emmenée à Marie-Galante parce que je tenais un restaurant et elle est venue avec moi. Elle avait 4 ans. Et les gens, c'était compliqué. Oui, mais non, en fait. Un enfant, c'est pas une contrainte. Donc oui, c'est juste des petites critiques que j'ai pu avoir qui finalement, aujourd'hui, on me dit « Non, mais elle est super, c'est super, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça. » Donc j'ai assumé ce livre. J'ai assumé, quand on me l'a proposé, de pas faire un livre de diversification alimentaire comme on les voit, mais de raconter mon histoire avec ma fille.
Un livre de réjouissance alimentaire.
Complètement.
Moi, je vous propose de rencontrer Yann Bourdelat. C'est un de nos collègues ici à RFI. Et il est papa, breton, d'un petit garçon de 14 mois. Alors, la diversification, je lui ai posé la question.
Il s'appelle Elphine, un très très vieux prénom breton.
Si on appelle son garçon Elphine, on affirme ses racines bretonnes. Comment est-ce que vous mettez vos racines dans son alimentation?
On a démarré aux alentours du 6e mois, quand il a démarré la crèche, avec des purées de légumes, et on a essayé de lui faire découvrir un maximum de légumes différents, et puis la viande, les fruits, et puis effectivement un petit peu de la Bretagne profonde, avec les galettes de sarrasin, comment ça s'appelle le gâteau, le kouign-amann, c'est ça?
Voilà. Vous voulez dire ce gâteau délicieux qui est plein de beurre et
ouais,
plein de sucre?
Il a adoré. Le kouign-amann avec de la framboise au milieu, il a adoré. Et puis après, c'était des galettes bretonnes assez simples, complètes, avec du jambon, du fromage, des champignons dedans. Et on lui coupe en tout petits bouts. Et puis, vu qu'il a ses premières dents, il fait comme les parents. Hein. Il nous imite et s'il nous voit avec une cuillère, il va faire pareil et il va s'en sortir.
Est-ce que, par exemple, ce qu'il voit dans votre assiette, lui, là aussi, mais en version plus facile à manger?
Alors, ça a même été plus rapide que ça. Au début, il ne mangeait pas avec nous. Il mangeait avant, parce qu'il mange plus tôt que nous adultes, le soir surtout. Et il arrivait à un moment où il ne voulait plus manger. Et on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on mange en même temps que lui. Et surtout, il voulait manger la même chose que nous. Mais ça s'est fait petit à petit. Au début, il mangeait sa petite purée dans son coin. Et maintenant, non, il veut vraiment nous imiter. avoir sa cuillère, manger la même chose que nous et presque préparer le repas avec nous. Il adore ça. Il veut voir ce qu'on fait et quand il voit que ce qu'il a préparé avec son papa ou sa maman, ça se retrouve dans son assiette en petits bouts, tout ça, et qu'il arrive à mettre sa cuillère jusqu'à la bouche, il est super content.
Ça, c'est un plaisir pour vous aussi, j'imagine.
C'est un plaisir, sauf qu'il faut accepter de manger à 18h. Ça, c'est un peu plus compliqué quand on est adulte, mais on finit par s'y faire. Et oui, c'est super bien de pouvoir partager ça avec son petit et surtout partager le moment de cuisine, parce que c'est vrai qu'on trouve ça important. C'est un moment où on peut tous se retrouver le soir, on peut discuter. On a le petit dans les bras ou il est posé sur le plan de travail à côté et il va grignoter en même temps. Il va grignoter un bout de fromage, un bout de tomate et ouais, non, c'est un moment qu'on adore ça, même s'il faut qu'on mange un peu plus tôt qu'avant. Mais bon. C'est comme ça.
De la Bretagne aux Comores. Il n'y a qu'un pas quand même là. Ben on se retrouve dans ce témoignage.
Oui. Mais carrément. Mais j'adore. Alors j'adore l'idée de partager ce moment de repas. C'est la clé. C'est ce que je dis souvent aux parents qui ont l'impression que leur bébé a du mal à manger, refuse. Le mimétisme, c'est très bien de le préciser. Il l'a dit et c'est vrai. L'enfant est dans du mimétisme. Pourquoi il mangerait avant ? C'est aussi à nous de partager ce moment. C'est un moment qui est important dans la journée de se retrouver à table. Mmh. On oublie ça.
Mais les fondateurs de la place du repas.
Le repas famille en famille. Mmh. Et le bébé, s'il te voit manger, il va manger. C'est vrai. Et surtout, Camilla, moi, je le faisais comme ça. C'est pour ça que je peux en parler. Parce que moi, elle refusait toutes les purées au départ. Et en fait, j'ai compris qu'elle voulait partager ce moment avec moi. Et c'est en faisant ma salade de fruits le matin qu'elle a pris ce bout de mangue. Et après, on a partagé tous les repas, les brunchs. C'est pour ça que dans le livre, il y a un onglet apéro brunch. Pour moi, c'est vraiment des moments, sur toute la semaine, tu dois trouver des moments de plaisir. Et que te faire à manger à toi et de isoler une partie pour bébé, c'est là où tu te rends compte que c'est cool. C'est pour ça que... Il n'y a pas besoin de faire deux repas.
C'était comme ça un peu la clé aussi. C'était au début forcément, parce que plus petits, ils ne peuvent pas manger physiologiquement. Ils ne peuvent pas manger certains morceaux ou certaines choses. Mais très rapidement, en fait, on en vient au moment où c'est on cuisine pour soi et il y a une part que l'on donne au bébé.
Et même dans les purées que je propose, la purée de banane plantain, la purée d'igname.
J'ai tout. Regarde mes post-it. Purée de plantain coco, les falafels. Nous avons aussi les épinards coco façon malabar, qui est un plat bien comorien.
Ah oui. Et c'est pour ça que finalement, même dans les tout débuts, on peut même nous apprécier la purée de betterave, elle avec du chèvre. Enfin, moi, je faisais ça pour pouvoir manger avec elle, parce qu'effectivement, sinon, tu t'ennuies. Et la purée de carottes, c'est pas la purée de carottes, carottes simple. Il y a du thym, du laurier, de l'ail, de l'oignon.
Donc, c'est donner le goût, en fait. C'est partager aussi le plaisir du goût et le plaisir du goût de partager.
Donner du goût. Donc, tu peux partager le repas avec ton enfant, même dès la purée.
Le goût du monde. Clémence de Navi.
Oh lélé, moliba makasi.
Oh lélé, moliba makasi. Oh lélé, moliba makasi. Boka na ye. Boka na ye, boka boka kasai. Boka na ye, boka na ye, boka boka kasai. Oh lele, oh lele, moliba makasi. Oh lele, oh lele, moliba makasi. Kara a oya oya onginza a oya oya engela a oya oya kara a oya oya onginza a oya oya o lele moliba makasi olele olele moliba makasi
olele olele moliba makasi
olele moliba makasi. Une des chansons des comptines et berceuses du Baobab de Chantal Grolesia et Paul Mindy sur RFI. Vous nous rejoignez. Est-ce que ça danse dans vos cuisines? En tout cas, nous, ça a dansé un petit peu avec cette comptine. Une comptine, je crois, Miss Kalaoutou, qui a joué son rôle hein, pour mettre un petit peu aussi l'Afrique et les racines africaines dans les foyers. Racontez-nous.
Oui. Alors, c'est une des chansons que tous les enfants apprennent à la maternelle. Alors, je crois que c'est dans Kirikou. Je ne sais plus dans quel dessin animé, mais c'est vrai que cette chanson a amené les langues africaines dans les foyers. Alors, moi, j'ai adoré, en plus, le mettre en cuisine avec Camilla et pendant nos brunchs. À l'école, moi, j'étais animatrice dans le 19e. Et les enfants, quand je le mettais à chaque fois, en fait, ils le chantaient, que ce soit des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et c'est là où tu te rends compte que la culture africaine, dès tout petit, en fait, et intégrée déjà à l'école, par cette chanson-là. Pas par la nourriture, mais par le chant. Mais pour moi, c'est déjà beaucoup.
Ouais. On a donc ce chant, cette note. Chanter et danser en préparant les repas, c'est...
Alors, c'est ce que je fais tout le temps. Camilla, elle fait pareil. C'est très important, parce que ça amène une ambiance, ça fait du bien et ça libère. Pour moi, la cuisine, c'est un moment où on se libère, où on s'exprime aussi. Et après, on partage. Donc, c'est beaucoup d'amour. Pour moi, c'est très important de ne pas être stressé quand on cuisine, par exemple. Parce que ça se ressent. Et pour moi, la musique et la cuisine, c'est un lien...
Indissociable.
Ouais.
Il y a beaucoup de cuisiniers, d'ailleurs, enfin, d'auteurs, compositeurs qui cuisinent également. Je pense au groupe L'Indigo à La Réunion.
Ah oui,
qu'on
oui.
avait rencontré en cuisinant.
Oui, Jupiter Request aussi. Hein.
Des rappeurs qui aiment beaucoup cuisiner.
En fait, je me suis rendu compte en faisant ces catering, et ça fait partie de mon projet d'après, que les artistes cuisinent énormément. Et qui sont très impliqués dans cette écologie, cette agriculture raisonnée. J'ai fait pas mal d'ateliers aussi avec des artistes et je me suis un peu amusée à ça. Avec Isolt, par exemple. On a beaucoup partagé ça, la cuisine camerounaise ensemble et comorienne. On a échangé, on est parti 3 jours s'isoler, on a partagé ces moments-là.
Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on parle depuis le début de diversification alimentaire, mais en définitive, si on prend cette émission au hasard comme ça, on se dit, ben, ces épices, c'est des principes de vie oui. autour de la table et autour de la marmite.
Autour de la marmite. Et tu voyages, surtout, en fait. Tu découvres toute personne qui part dans un pays, la première chose qu'il va faire, c'est goûter un plat ou aller dans un restaurant traditionnel. C'est vrai, c'est la...
C'est ce qu'on lui souhaite, en tout cas.
Mais, oui, c'est ce qu'on lui souhaite, de s'ouvrir. C'est vrai que tu peux voyager à travers l'assiette et découvrir un pays à travers l'assiette.
Alors, ce qui est intéressant aussi, Miss Kalaoutou, dans votre livre, il y a tout au long de la journée. Donc, on commence avec les petits déjeuners, il va y avoir l'apéro, les bons repas et comment reconditionner son bon repas. Quand oui. on s'est fait un poulet coco, on en a fait un peu trop. Donc, on peut l'utiliser autrement, vous donner ces astuces-là, oui. avec des recettes très gourmandes tout du long. Et il y a une page que j'ai bien aimée aussi sur les ustensiles. Et vous expliquez que si vous n'avez pas le matériel que l'on vend un peu partout aux gens qui ont leur premier bébé, c'est pas grave.
Non.
Vous pourrez même faire des économies.
Ouais.
En cuisinant, avec quoi, alors, du coup?
Eh ben, on cuisine avec ce qu'on a.
On n'a pas besoin de changer.
La poêle. Enfin, la poêle, je suis pas trop dans les cuissons dans un premier temps, mais en tout cas, si on a un four, un plat pour aller au four, la cuillère en bois, pour écraser, ben, la fourchette va très bien, parce que finalement, il faut cuire les légumes plus, faut vraiment qu'ils soient très bien cuits. Donc, si finalement, quand tu écrases, ben, ça te fait de la purée. Donc, en fait, si vous voulez, moi, je l'ai eu, ce fameux, on me l'a offert. Bon. Mais ça m'a fait plus chier qu'autre chose, parce qu'en plus, les quantités, elles sont limitées. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est de l'argent. Alors, on te vend ça, mais tout le monde n'a pas les moyens.
Ouais. Et accessoirement, l'enfant ne peut pas s'en servir, alors que la fourchette et la cuillère,
mais oui,
il va pouvoir donc cuisiner avec vous.
Non, puis alors vraiment, pour le coup, en plus, ouais, le goût, il est meilleur quand,
oui,
on le fait dans
sûr,
nos plats à nous, hein, c'est comme pour
puis
tout.
Puis on peut
hein,
mettre ses doigts dedans, goûter, toucher, ah, découvrir.
Oui, oui. Non, mais moi, vraiment, c'est pour ça que c'était très simple quand je l'ai fait. J'ai tout fait comme ça. Et j'avoue que j'ai libéré plein de parents. C'est plein de messages. C'est marrant que vous insistiez sur cet onglet ustensile parce que j'ai eu beaucoup de remerciements de parents qui se sont rendus compte que finalement, c'était beaucoup plus simple que
mais
ça.
En fait, on s'en fait un peu un monde de toutes ces étapes-là, alors qu'en réalité...
Ben oui, mais c'est comme comment présenter son plat, en fait, à bébé. Alors, on te vend plein de d'assiettes avec plein de compartiments qui coûtent... L'assiette, elle coûte 10 euros, 15 euros. Enfin bon, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter ça. Eh ben, t'achètes un cercle. Ah, mais oui, mais moi, c'est vraiment, c'était simple, en fait, hein. Il faut de la couleur, c'est tout. En fait, ouais, l'enfant, il est content. Couleur. Dès qu'il y a de la couleur, il est content. Et voilà. Et du goût, hein, c'est primordial.
C'est primordial. Alors, je n'ai pas vu de gombo.
Eh bien, non.
Parce que, bon, c'est pas que j'ai une obsession gombo, mais,
Mais non! Mais il y a l'igname, il y a la banane, il y a la patate douce.
Au Comore, on mange pas de gombo.
Non, il y a pas de gombo.
Eh ben voilà.
J'ai découvert le gombo très tardivement et encore je n'arrive pas à le cuisiner.
Ouais. Eh ben je vous propose d'écouter Stella. Elle est sénégalaise. Elle nous donne une petite idée.
Le soupe kanja est une sauce qu'on appelle soupe parce que c'est un mélange de, on met du crabe, on peut mettre des crevettes, on peut mettre de la viande, du poisson séché. Mais à la base, c'est une soupe.
Vous l'aimez comment, vous ?
Alors, une recette peut-être pour mon bébé que j'ai testé. Il a 8 mois. Et il n'y a pas longtemps, j'ai testé un mini soupe ukanja, donc la soupe de combo. Donc, j'ai mis un peu d'oignon, un peu de tomate, tout juste. J'ai coupé les gombos et je les ai fait revenir. Et puis, je les ai mixés, tout simplement. Et j'ai mélangé avec de la banane plantain que j'avais mixée et bouillie auparavant. Et le tout, ça a fait une espèce de soupe ukanja gombo. Banane plantain, et il a adoré.
Quelles sont les épices que vous aimez avec le gombo ?
Je ne sais pas si c'est vraiment des épices, je pense que c'est plus dans la sauce, on l'associe à du poisson fumé, au crabe, aux crevettes, aux crustacés, plutôt que des épices.
Alors ?
J'avoue.
J'avoue, vous
j'avoue,
avez
si j'avais un tome 2 à faire, je le...
Hein, vous ouvriez le tome 2 au gombo.
Oui. Non, mais après, c'est vrai que c'est un... En plus, c'est très bon pour la santé. Non, mais je me suis posé la question. Hein, je ne veux pas non
et
plus
des
cacher.
Témoignages recueillis de mamans de bébés élevés au gombo, ça coule directement dans la gorge et c'est très facile à manger.
Mais oui, c'est comme l'aloe vera. Mais c'est gluant. Hein.
Ouais.
Donc, c'est, j'imagine que de fait, il faudrait voir. Mais je pense que oui, effectivement, même ça doit... Beaucoup aider en tant que quand ils sont constipés, je pense.
Eh bien, on va diversifier votre alimentation, Misk Alaoutou, oui, également. Vous allez avoir un jardin.
Oui.
Et donc faire pousser des légumes.
Oui.
Est-ce que tout cela, c'est totalement cohérent ?
Potager à l'assiette, oui. Je l'ai fait à Romainville. Là, j'ai quitté la région, mais on avait notre potager. Et oui, j'adorais voir ma fille le matin, avant d'aller à l'école, se réveiller, aller chercher ses tomates cerises, au petit déjeuner à jeun, et revenir, aller chercher ses fraises... aller chercher les légumes avec moi, aller chercher les herbes aromatiques quand je lui demandais, avec son petit ciseau. Oui, oui, j'ai grandi comme ça aussi à nos gens. Hein. Papa avait le potager, donc on a toujours eu ça. Et aux Comores, on a nos champs. Donc pour moi, ça me paraît normal, en fait. C'est vrai que quand je suis aux Comores, j'ai ces épices, j'ai les cocos, j'ai les bananes, des bananiers, du terrain. Quand je suis ici, oui, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de savoir d'où ça vient. J'ai besoin de savoir comment ça a été fait.
Est-ce qu'elle ne commence pas là, la diversification alimentaire ?
Ah si, 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 carrément. Carrément, parce que bon, déjà, en plus, c'est pour ceux qui le peuvent. Hein, parce qu'après,
après,
encore une fois...
À l'intérieur de chez soi, on peut avoir un peu de terre et faire pousser de la ciboulette.
C'est vrai que on ne se l'autorise pas assez, peut-être. Alors, le confinement, pour ça, j'ai envie de dire merci. Parce qu'il y a une grosse prise de conscience.
La cuisine africaine a cela. Plus j'en parle et plus on fait des émissions autour de la cuisine africaine, qu'elle est très peu transformée en définitive et que vous allez utiliser le produit brut, par exemple un épinard, que vous allez cuisiner. Et toutes les étapes des produits que vous utilisez, c'est cuisiner pour en faire un plat. Que ce soit la banane plantain, les épinards mis ensemble, ça fait un plat. Ça, c'est important. Quelle part, justement, de cette démarche-là est importante, selon vous, à transmettre ?
Alors, ça peut ne pas être transformé, parce que, par exemple, je ne l'ai pas mis dans le livre. J'avais que 80 recettes, mais c'est vrai que la banane plantain, par exemple, chez nous, on va la manger aussi à l'eau. Le manioc aussi, beaucoup même. La viande, on la cuit à l'eau et on fait cuire tout ça à l'eau et même le, avec le poisson frit. Donc, les transformations, on l'a en l'état brut, c'est-à-dire à l'eau ou à la vapeur, ou cuit au charbon, par exemple le manioc. C'est très bon quand c'est cuit au charbon. Et après, on va toutes ces étapes de l'oignon, de comment mélanger les épices. Pour moi, c'est de la magie. C'est beau, en plus. Parce que c'est le curcuma, c'est le masala. Et puis les odeurs, c'est qu'à chaque fois que tu en ajoutes, t'as toutes ces odeurs qui ressortent. Donc, c'est la magie de la couleur aussi, pour moi. Et c'est la magie des épices, c'est aussi ça. C'est... Donc, de tout transformer, d'en arriver à un plat où, du coup, tu dis « waouh ». C'est magique. Mais en même temps, l'état brut, c'est magique aussi. C'est ça qui est chouette. Et c'est beaucoup de légumes racines. Hein. Enfin, en tout cas, quand je parle de l'igname, quand je parle de... Pas la banane, mais... si je la considère comme des légumes racines, parce que c'est mes racines, encore une fois. Mais cette fierté.
D'ailleurs, vous nous avez apporté quelques-unes de vos racines.
Oui.
Racontez-nous un petit peu, parce que vous aviez du mal un petit peu à...
Oui, j'ai du
à
mal
trouver
à...
un ingrédient, un ustensile. En oui. tout cas, à limiter à un ingrédient.
Donc, j'ai voulu vous faire découvrir la cannelle en état brut, c'est-à-dire l'écorce. Parce que la cannelle, c'est une écorce de base, qui après est travaillée, on enlève, parce que ça fait pas très joli. Mais j'avais envie de vous l'amener en état brut. Ça, pour moi, c'est une base de la cuisine comorienne, avec la girofle. Parce que chez nous, girofle, c'est pas comme ici, on va l'utiliser pour piquer l'oignon et mettre dans les pot-au-feu. On l'utilise, on l'écrase, on les met dans les sauces à la viande. Et pour moi, c'était une autre façon d'utiliser la girofle, qui est pas que pour les maux de dents, qui est pas utilisée que pour des produits de beauté, mais qui est utilisée dans les sauces, directement. Donc ça, c'était très important pour moi. Le poivre des Comores, on n'en parle jamais, mais il y a des super poivriers là-bas. Ça, c'est le poivre du terrain du l'oncle de mon papa. Et j'adore aller sur son terrain à Mayotte à chaque fois que je vais là-bas. Et le masala, c'est le mélange d'épices, un peu comme le razel hanout. Chaque maman a son mélange. Et ça, c'est celui de ma maman. Et je n'arrive pas à en trouver un autre aussi parfumé. Donc le garam masala, c'est un peu plus dur. Donc c'est pas le même. Ça, c'est l'héritage des Indiens. Parce que les Comores ont été colonisés. Voilà. Et l'ustensile, c'est cette fameuse cuillère louche.
Très belle, ouais, très
en belle. Aluminium. Qui, moi, m'a bercée et j'ai grandi avec et j'ai toujours cuisiné avec. Et je vous parle de ça, donc elle a 30 ans, celle que je vous ai apportée. Et elle est toujours intacte. Donc, je l'ai eue en main, j'avais 7 ans. Et c'est Camilla qui prend la relève maintenant.
C'est beau. Merci beaucoup, Misk.
Avec plaisir.
Alaoutou, auteur donc de ce livre pétillant qui s'appelle « Comment pimper la diversification alimentaire de mon bébé ». C'est publié chez First avec les très belles photos de Akiko Ida et les illustrations de Keilam, qui fait qu'on suit très facilement ses recettes. Puis il est gourmand ce livre, donc on va de fil en recette, en page tout au long de votre livre. Totalement décomplexant surtout, donc je le conseille fortement aux nouveaux parents qui n'ont jamais eu d'enfants et donc qui se sont lancé dans cette aventure extraordinaire qui peut être un peu stressante. La prochaine émission se fera peut-être dans votre jardin, avec des bambins, qui sait ?
Oui, à nos gens le retrouvent, pour aussi que vous voyez ces super ustensiles de cuisine des Comores, avec tous ces épices.
Je rêve.
Très bien.
Nous mettrons bien sûr sur la page de l'émission une recette que vous nous donnerez. Laquelle ? La crêpe, je crois, ça va s'imposer.
Ah ouais. Après, il y a le poulet au coco, je sais pas, on verra.
Peut mettre les deux, ça pourrait être agréable. Et vous, la diversification, je suis sûre que vous avez de bonnes recettes et astuces à partager. Racontez-nous, écrivez-nous sur la page du Goût du Monde et sur les réseaux sociaux, bien sûr, nous sommes partout. Merci à Cécile Bonici pour la réalisation de ce Goût du Monde que vous pouvez réécouter, partager en vous abonnant à l'émission sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi, et oui, nous donner des étoiles et commenter. Et comme on adore vous lire, ça nous fera bien plaisir. Nous vous souhaitons une très très bonne semaine à tous. On vous donne rendez-vous samedi prochain. Même table, même saveur. Mijotez rien que pour vous, cette émission était une rediffusion.
Tout à l'heure,